Jean-Marie Bolika, bonjour.
Bonjour.
Quelle est l'évaluation que vous faites de ces codes forestiers, le bilan que vous dressez 10 ans après?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le bilan d'abord est positif parce qu'il y a eu la production des textes réglementaires qui régissent les secteurs forestiers aujourd'hui. Beaucoup de textes, je dirais environ 45 textes, il y a eu au moins 37 qui ont été signés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement connaît ce qui se passe dans les secteurs forestiers à travers la réforme, mais seulement les inquiétudes, c'est au niveau de l'application des textes. On a remarqué qu'il y a la faiblesse au niveau de l'application des textes. À cause de la faiblesse de l'application des textes-là, il y a aujourd'hui la prédominance aujourd'hui de l'exploitation artisanale du bois, qui est un exemple palpable. Et il y a aussi un autre exemple, c'est la faiblesse du contrôle forestier qui ne permet pas à ce que l'État congolais puisse traquer tout contrevenant qui viole la loi forestière. Je dirais qu'il y a beaucoup d'exemples pour élever les points négatifs par rapport à la réforme. Mais dans l'ensemble, la réforme a porté parce que nous avons les textes réglementaires aujourd'hui.
Et est-ce que la production artisanale, elle est interdite?
La production artisanale n'est pas interdite. La production artisanale, elle est prévue pour la consommation locale. Elle ne peut pas servir d'exportation. Donc, le bois qui provient de l'exploitation artisanale, il est pour la consommation locale. Par contre, aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a des personnes morales. Il ne peut détenir le permis de coupe artisanale qu'une personne physique. Par contre, nous remarquons aujourd'hui que les personnes morales, et voire les SPRL, les entreprises, détiennent des permis de coupe artisanale et ils coupent même des essences interdites. Donc, nous disons que là, ça ne marche pas.
Et quel dividende économique compétirait de ces codes forestiers?
Oui, le dividende économique, c'est que si la loi était respectée, aujourd'hui, on allait encadrer les industriels du bois parce qu'ils sont connus. Ils ont signé les clauses sociales de cahier des charges avec les communautés. Ils font l'aménagement forestier. Ça veut dire qu'à travers les clauses sociales de cahier des charges, ces entreprises-là contribuent à la construction des infrastructures scolaires, hospitalières, ils donnent et accordent des facilités de transport aux populations. Là, c'est un aspect positif. Mais lorsque l'exploitation artisanale prend de l'ampleur, ces exploitants artisanaux-là ne font pas l'aménagement forestier, ne signent pas des cahiers de charges, ne payent pas les taxes, mais ils vont jusqu'à exporter même le bois qui sort de l'exploitation artisanale. Donc, l'exploitation artisanale aujourd'hui pratiquée par les entreprises, c'est une violation de la loi.
Quelle évaluation faites-vous du reboisement en RDC? Y a-t-il encore des aires protégées ici chez nous? Des arbres qui sont coupés et on ne songe pas à les replanter?
Si la loi est appliquée, il y a des taxes sur le reboisement. Est-ce que ces taxes-là sont perçues? Quelle est la destination de ces taxes-là? C'est encore une interrogation. Donc, c'est là où j'ai dit que le code est là, les textes réglementaires sont là, mais le code souffre de l'application.
Une des dispositions de ce code prévoit 40% des produits de la redevance à concéder aux entités administratives décentralisées. D'où proviennent ces produits forestiers? Et 60% en faveur du trésor public. Est-ce que cette disposition est d'application sur le terrain?
Là, c'est encore un autre problème très sérieux. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut demander des comptes au gouvernement pour que réellement la redevance forestière puisse porter des fruits. Parce que les textes qui régissent la redevance forestière sont clairs. On vous dit, vous avez sur les 100%, les 60% sont pour les trésors publics, les 40% pour la province, les 15% pour l'entité sur laquelle on a extrait le bois. Aujourd'hui, aucune province, aucune entité administrative, voire le trésor public, il est difficile de faire la traçabilité de cette taxe-là. Et c'est là encore il y a le problème. Donc, je pense que ça vaut la peine que les questions de transparence soient suffisamment évoquées pour qu'on sache effectivement comment tous ces revenus qui sont tirés de l'exploitation forestière soient mis au clair. Pour que l'exploitation forestière puisse contribuer effectivement à la lutte contre la pauvreté comme un des éléments de l'exposé des motifs qui a motivé la réforme du secteur forestier en 2002.
Est-ce que cette exploitation forestière profite réellement aux communautés locales d'où proviennent les produits forestiers? Je parlais par exemple de l'Équateur, du Bas-Congo.
Je vous dis sincèrement qu'avant, l'exploitation forestière ne profitait pas aux communautés. Mais avec l'arrêté 023 qui consacre les accords sociaux des cahiers de charges entre les communautés et l'exploitant forestier, c'était déjà un texte réglementaire qui permet de savoir les droits et les devoirs de toutes les parties prenantes engagées. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Il n'y a qu'une année que ces accords-là sont devenus une exigence avant la signature de la convention, donc du contrat de concession forestière entre l'État congolais et l'exploitant forestier. Je vous dis sincèrement que nous avons envoyé des gens sur le terrain, ils nous ont rapporté des informations sur ce qui se passe effectivement dans les concessions forestières. Là où on a signé des accords, certaines entreprises ont réalisé des infrastructures socio-économiques. D'autres ne l'ont pas encore fait. D'autres évoquent des questions relatives à la crise financière. D'autres évoquent beaucoup de contraintes. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est l'application de la loi. Il faut appliquer la loi. Il faut sécuriser l'investissement. Il faut faire en sorte que l'exploitation artisanale que je viens d'évoquer tout à l'heure soit vraiment contrôlée, que l'État puisse sanctionner. Nous avons une liste de plus de 30 exploitants artisanaux qui ont donné des adresses à Barumbu, à Kinshasa, à Gombe et dans la commune de Lumete, dont ils sont introuvables. Donc on ne peut pas travailler avec des gens qu'on ne peut pas identifier. Est-ce que ces entreprises FUSA payent les impôts, déposent leur bilan. Tout un questionnement qu'on doit faire sur ces opérateurs-là qui sont en train de faire la contrebande, qui sont en train de criminaliser le secteur forestier.
Tout tourne autour de l'application, vous dites application de la loi. Et vous avez évoqué dans votre intervention de tout à l'heure 156 titres forestiers, je crois. Oui. Tantôt, vous avez parlé de 80, et sur 80, il y a 15 mesures qui sont d'application. Comment vous circonscrivez tout cela?
Donc, il y avait 156 titres qui étaient soumis à la conversion, mais il y a 80 titres convertibles. 15 aujourd'hui sont convertis. Mais le processus continue. Là, j'ai parlé de 48 clauses sociales signées. Ça veut dire que ça va continuer jusqu'à ce que nous puissions atteindre les 80 titres convertis.
Jean-Marie Bolika, je vous remercie.
Merci beaucoup.